Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur le 214e Comics Weekly, votre émission de review des sorties comics VO. Nous sommes le jeudi 25 septembre et ce soir, au programme du DC, de l'Indé et du Marvel, une petite sélection car nous sommes que deux ce soir pour l'émission. Vous aurez du Futures End évidemment chez DC, puisque c'est le mois Futures End, en Indé de la nouveauté avec notamment l'arrivée d'Alien, de Roche Limit ou encore de A Town Called Dragon. Et chez Marvel, trois sorties, le New Avengers dans le futur, le Loki ou encore le Inhuman. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Avec moi ce soir pour vous présenter tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Comment vas-tu, Bruno?
Eh bien, très bien.
Es-tu remis de cette émission épique d'hier soir?
C'était épique, mais j'avoue que j'apprécie beaucoup ce concept des émissions directes.
Ah, c'est génial.
Et voilà, j'y prends goût et vivement la semaine prochaine.
Mais c'est vrai que de savoir qu'on est en direct, d'avoir cette interaction avec les auditeurs sur Twitter, c'est véritablement un privilège, honnêtement. Enfin, moi, je le vois comme un privilège. On peut discuter avec vous en direct. Vous pouvez nous corriger ce qui est arrivé hier quand on dit une erreur ou quand on a une info incomplète. Et voilà, au moins, on vous donne une véritable info qui vous fait plaisir et qui est juste, en plus. Voilà.
Et ouais. Non, c'est
génial. Cool. Bref, nous allons parler ce soir de sorties comics, évidemment, et nous allons commencer avec du gros, du lourd, du DC, Futures End, avec des numéros assez marquants cette semaine. On y reviendra tout à l'heure. Néanmoins, on va démarrer avec ce qui est une des séries hebdo de la semaine, qui est de bon ton, puisque c'est le mois Futures End. Il s'agit de Futures End numéro 21, Bruno.
Oui, donc toujours la même équipe, hein, Azzarello, Giffen, Jurgens et Lemire, avec un petit nouveau pour les dessins, c'est Cully Hamner. Qui rejoint l'équipe des dessinateurs de Futures End pour un numéro charnière. C'est le numéro qui va tout nous révéler, tout sur cette fameuse guerre entre Earth 2 et Darkseid, tout ce qui est arrivé en fait à tous ces héros de la Terre 2. En fait, j'ai l'impression que ça nous dit toute la fin de la future série hebdo World's End. Donc c'est assez étonnant, mais donc ça commence.
C'est con alors qu'elle vient juste d'être vraiment annoncée cette semaine dans Booster Gold, on en reparle tout à l'heure.
Donc ça commence avec sur l'île de Green Arrow, puisqu'en fait on a appris depuis quelques semaines que Green Arrow avait fait semblant d'être mort pour pouvoir
Ville gredin.
Ouais, pour pouvoir agir dans l'ombre contre Cadmus. Et en fait, il a utilisé son armée des Outsiders, donc rappel de tout ce qu'avait fait l'émir avec son arc sur les Outsiders, pour pouvoir aller recruter 2-3 héros pour l'aider dans cette tâche.
Et cette blague que tu as faite, Bruno, sans t'en rendre compte, avec son arc sur les Outsiders, Green Arrow.
C'était magnifique. Mais je m'en suis rendu compte en le disant, donc je me suis rendu compte de mon génie. Et donc, en fait, il a recruté Big Barda, donc une super-héroïne de la Terre 2, qui avait réussi à se cacher un petit peu sur la Terre Prime. Et donc, voilà. Et donc, en fait, c'est l'occasion pour Red Arrow, qui, en fait, est lui aussi un super-héros de la Terre 2, qui fait équipe avec le Green Arrow de la Terre classique, de raconter la guerre avec Darkseid et comment ça s'est passé, et ce qui est arrivé à Miracle Man, à Dr. Fate et compagnie. Et comment Mister Terrific est arrivé sur la Terre Prime, enfin voilà, plein de choses. C'est très rythmé, beaucoup de révélations. On voit vraiment beaucoup d'éléments qui sont expliqués concernant surtout Brotherhood par exemple. Et voilà, c'est une lecture très agréable, vraiment un numéro charnière, un numéro qui lance bien la deuxième phase de Futures End, puisque là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il y a eu une vingtaine de numéros pour poser un petit peu les bases de cette version futuriste des New 52. Et là maintenant c'est le grand combat contre les deux grands méchants qui sont Brotherhood d'un côté et Brainiac de l'autre. Et bah, ça va partir en freestyle. Et
Mais
voilà.
la grande question, c'est n'était-ce pas trop long? 20 numéros d'exposition, finalement.
Bah, c'est peut-être un défaut et en même temps une qualité dans le sens où du coup ça fait un récit assez riche. Il y a des histoires.
Cependant, 20 numéros, c'est que 20 semaines. Donc,
Ouais.
rapporté en mois, c'est pas grand-chose. Ça fait à peine 4 mois.
Oui, et puis tu vois, il y avait des trucs que j'avais trouvé un peu poussifs, comme par exemple Firestorm, où très rapidement, bah voilà, on a complètement laissé tomber ce personnage, heureusement. Donc effectivement, on aurait pu se passer de toutes ces scènes qui concernaient Firestorm. Peut-être, j'espère que à terme, il y aura quand même une raison d'avoir eu toutes ces scènes avec ce personnage. Mais par contre, il y avait des scènes sur Red Robin, par exemple, que j'avais trouvé un peu chiantes au début, qui finalement, au fur et à mesure, ça s'est bien développé. Et bah voilà, on a quelque chose d'assez cohérent et d'assez passionnant. Et voilà, et puis bah Green Arrow écrit comme il l'est là par ses quatre scénaristes avec vraiment la grosse touche de Jeff Lemire. On retrouve vraiment le Green Arrow de sa série, quoi. Et ça fait plaisir. Donc et puis Cully Hamner, ça fait plaisir de le voir aussi sur Future's End, puisque c'est un artiste que j'aime bien, qui est assez efficace. Et là il y a de jolies planches. Donc pour moi c'est une très bonne surprise et un bon gros bail ce numéro.
À savoir que le numéro prochain se portera sur les conséquences de Doomed, notamment, hein, qui s'est terminé cette semaine avec le Doomed numéro 2 que nous n'avons pas lu pour ce soir, par manque de temps principalement. Mais voilà, on a quand même vu un petit peu les spoils qui sont passés par-ci par-là sur le net et on s'est un petit peu renseigné. Et effectivement, ça promet du bon. Ça sera donc à suivre dans le Action Comics 35 et le Future's End 22. Donc. Voilà, à vous de voir si vous pourrez prendre peut-être le train en marche pour cette deuxième phase de la série, hein, comme Bruno, tu nous disais qu'on vient de terminer un premier chapitre, en quelque sorte. Ou est-ce que ce sera un numéro peut-être intermédiaire? Bah, à voir. En tout cas, voilà, vous avez peut-être une porte d'entrée pour Future Zen sans vous retaper les 21 premiers numéros, même si ça paraît quand même relativement essentiel.
Ouais, mais je crois d'ailleurs que le premier relié de Future's End doit être du numéro 1 au 20 ou un truc comme ça, donc il y a faudrait que je
Ah mais
vérifie.
ça fait énorme!
Ah, mais de toute façon, que ce soit pour Eternal ou pour Future's End, ce sera de très très gros TP hein, qui sont
Mais
prévus.
c'est plus des TP, c'est limite des omnibus là.
Mais ouais, non, bah c'est tant mieux parce que comme ça évite d'avoir 50 000 TP. Mais attends, tu vois, je vérifie en direct
Pour
Future's End
peu que
vaut.
ce soit éducatif, ce seront des omnibus magiques.
Ouais,
J'en profite pour
alors.
placer une vanne.
Future's End, il y aura du numéro 0 au numéro 17. Donc ça fait quand même 416
Putain.
pages.
Ouais, ça fait 18 épisodes, c'est énorme.
Et
Tu as le prix déjà?
ça débarque le 3 décembre.
As-tu déjà le prix?
Il sera à 40$. Donc c'est quand même assez raisonnable pour autant d'épisodes.
D'accord. C'est pas si cher que ça.
Je pense que la publication française se basera un petit peu sur ses publications américaines, du coup.
Bien, eh bien, nous allons continuer avec du Future's End, cette fois-ci 5 ans dans le futur et dans les séries régulières. On va démarrer avec Red Lanterns, une série que je ne suis pas actuellement comme le reste de l'univers Green Lantern, mais j'avais envie d'aller voir celui-ci, notamment grâce à cette cover qui m'intriguait énormément, un Guy Gardner en Blue Lantern.
What
Exactement, c'était un peu ce qui était passé dans ma tête, je me suis dit, bon allez quand même, va voir ça. Et bien m'en a pris parce que c'est un très bon épisode, j'ai trouvé que c'était une très bonne histoire. On est 5 ans dans le futur évidemment, hein. C'est le principe de Future's End, je le rappelle. Charles Soule est au scénario, Jim Calafiore est au dessin ainsi qu'à l'ancrage. Et on a une version de Guy Gardner totalement what the fuck, Blue Lantern. Et oui, donc Guy Gardner, l'homme qui a touché à toutes les couleurs. Voilà.
fuck? C'est clair. C'est clair.
Refaites le compte, il en manque une, mais vous aurez une explication dans ce numéro, ça c'est cool. Donc Guy Gardner est allié à Bleez et leur but est de simplement détruire le Red Lantern
Blizz.
Corps.
Blizz, elle
Bleez.
est Blue Lantern aussi?
Non, non, elle est Red Lantern, elle
Ah,
est toujours Red
d'accord.
Lantern.
Ok.
Bleu et rouge sont alliés pour détruire tous les Red Lanterns et ils vont à la chasse des différents membres. Des Red Lanterns survivants, parce qu'on nous précise qu'on est 5 ans dans le futur après les Atrocities. Alors qu'est-ce que c'est? Bah voilà,
Ah.
on le découvrira. Voilà, il place une petite piste, hein, sûrement pour son run, et ça c'est quand même une très bonne chose. Donc c'est un numéro qui, certes, est dispensable, clairement, il n'y aura aucune conséquence, mais on nous place quand même des teasings pour la suite du run de Charles Soule, j'imagine. Ça peut être plutôt intéressant. Quoique Charles Soule va s'en aller, je crois, de Red Lanterns, je suis en train de dire une bêtise. Il va
Oui,
terminer son run, hein,
bah, il
puisqu'il
va
devient
terminer son
exclusif
run,
Marvel.
logiquement, mais après, à partir du mois de mars, je crois qu'on avait dit qu'il devenait exclusif Marvel.
Donc Bliss et Gardner non seulement sont alliés mais couchent ensemble aussi hein, de temps en temps avec cette, cette très belle phrase en disant bon, on n'a qu'à le faire de toute façon. On a Guy Gardner qui dit t'es sûr et tout, ça craint pas un peu, et Bliss lui répond mais tu sais très bien de toute façon qu'on pensera chacun à quelqu'un d'autre. Et Guy Gardner qui dit oui, après tout je peux vivre avec ça, voilà. C'est juste magique quoi. Et Bliss donc récupère tous les anneaux de Green Lantern en les mettant sur ces morceaux d'ailes décharnées. En fait, ils sont tous empilés sur ces ailes décharnées. C'est du plus bel effet, honnêtement. On a des planches qui sont vraiment superbes. Et donc, elle absorbe un peu à la manière d'Highlander, quoi. C'est véritablement le concept d'Highlander, c'est qu'il ne peut en rester qu'un. Et bah, elle récupère un peu tous les anneaux, un peu comme le Quickening avec Highlander, quoi. C'est, Et qui est le dernier Red Lantern autre que Bliss? Eh bien, il s'agit de Jack, évidemment, Red King Jack, qui se fait appeler King, et qui, lui, porte ses anneaux sous forme de cotte de maille. Et c'est juste badass comme jamais. C'est trop, trop classe. Une cotte de maille fait en anneau de Red Lantern, c'est classe. Et donc, tout ça va aller vers un combat entre les deux forces. Guy Gardner, qui peut soigner les Red Lanterns, pardon, avec son pouvoir de Blue Lantern, et qui va ensuite, qui en transformer Ismolt avec la batterie rouge en espèce de planète d'accueil pour tous les gens qui ont été infectés par le Red. Enfin, le Red. Les Red Lanterns, pardon. Parce que du coup, ça, c'est très confondant. Ouais, qui ont été infectés par la rage, comme ça. Et puis, de l'autre côté, Red King Jack. Alors, qui gagnera, justement, je ne vais pas vous le révéler, à vous de lire l'épisode. Mais c'est un très bon moyen de terminer le chapitre Red Lantern. Très bonne histoire. Franchement, comme je dis, c'est dispensable, évidemment. Ça n'aura pas. Peut sûrement aucune conséquence, mais ça reste un bon épisode à lire, très sympathique. Et franchement, je ne regrette pas ma lecture, et je vais dire que c'est un bail, ce numéro, mine de rien.
Cool.
Donc comme quoi, et ça m'a donné d'ailleurs envie de me replonger dans cette série Red Lantern, que je ne suis pas actuellement, parce que l'univers Red Lantern me plaît beaucoup moins actuellement, honnêtement. Puis j'ai moins de temps aussi, donc l'un est dans l'autre, quoi. On continue avec Booster Gold, ce numéro qui fait tant parler. Booster Gold, qui est un numéro écrit par Dan Jurgens, avec des dessins de Moritat, de Dan Jurgens ancré par Norm Rapmund, de Will Conrad, de Steve Lytle, de Steven Thompson ancré par Mark Irwin, de Ron Frenz ancré par Scott Hanna, de Brett Booth ancré par Norm Rapmund. Voilà tous les dessinateurs, il y en a un paquet hein, sur ce numéro. Et ça se justifie puisque on va suivre Booster Gold qui fait des bonds incontrôlés à travers le temps. Est-ce vraiment le temps d'ailleurs? Justement, c'est une des grosses interrogations de ce numéro. Il y en a partout. Alors, je vais essayer de vous le résumer assez simplement, sans trop vous en donner, parce qu'il y a beaucoup d'easter eggs à aller chercher dans cet épisode. Et puis, parce que j'aurais pas la prétention de tous les avoir trouvés. Étant donné que je l'ai lu pas longtemps dans cette émission, je n'ai pas encore le recul nécessaire pour avoir tout absorbé. Je l'avoue franchement, ce numéro est super dense. Mais vraiment super dense. On va reprendre un peu, par certains côtés, la situation qu'on avait à la fin de Justice League International 12. Rappelez-vous, cette série qui n'a duré qu'un an, au début des New 52, qui contenait Booster Gold. On va revoir cette fameuse séquence où Booster Gold se parle à lui-même du futur, mais avec cette fois-ci le point de vue du Booster Gold du futur. On va voir
mal, ça. C'est bien vu, parce que c'était attendu. On avait vu qu'il y avait un problème par rapport au fait que Superman embrassait Wonder Woman, et que du coup, c'était peut-être un élément déclenchant pour des problèmes, justement, dans le futur.
Oui, il disait que c'était pas son univers.
Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec ça ou...
C'est assez nébuleux, en fait. On va se retrouver avec un Booster Gold qui est piégé et qui est interrogé par des extraterrestres, avec un espèce de conduit qui le tient par le cou et qui apparemment le retient bien, etc. Et ces extraterrestres veulent savoir quelque chose, chose à laquelle Booster Gold dit non, et il continue pendant ce temps-là. Alors, est-ce un truc de ces extraterrestres? Est-ce une manipulation mentale? Des hallucinations? Vous le saurez à la fin de l'épisode, je vais vraiment pas en révéler, c'est vraiment complexe, et cette fin vous mettra sur le cul, je pense, si vous aimez l'univers DC, si vous aimez Booster Gold, et si vous vous intéressez à l'univers DC et son avenir. Il interroge pour savoir quelque chose. Alors, ce quelque chose, justement, c'est expliqué à la fin. Vraiment, je ne vais pas en parler, mais si on réfléchit un tout petit peu, c'est tout à fait logique. On peut faire confiance à Dan Jurgens, hein, d'ailleurs, pour bien maîtriser Booster Gold. C'est un personnage qu'il connaît bien, de toute façon, et il l'écrit très très bien. Booster Gold va voyager d'époque en époque, comme je le disais, autant à l'époque victorienne, avec un Batman, on comprend pas trop. Mais bon, sûrement le monde de Gotham by Gaslight, il y a de fortes chances. On va le voir voyager au moment où il y a la Légion, dans le futur. Et c'est là que ça devient très compliqué. Est-ce que Booster Gold, puisqu'il va passer même sur Terre 4, est-ce que Booster Gold voyage d'époque en époque, de terre en terre, peut-être même les deux? C'est très compliqué. Il va croiser Kamandi, notamment. Aussi.
Ah bah voilà, parce que je me disais, sur la couverture, on voit les méchants de Kamandi, justement.
Et oui, il va croiser Kamandi. Et il va recroiser sa sœur aussi. Vraiment, beaucoup, beaucoup de choses à disséquer. Je pense que c'est un épisode qu'on peut relire 3-4 fois en essayant de chercher différents sens et en trouvant des sens différents. D'ailleurs, on a des Booster Gold différents. Il suffit de bien regarder son armure. Pensez à bien regarder le costume de Booster Gold à travers les pages. Vous aurez des indications de quel Booster Gold on suit. Et ça, c'est très important. Ce sont des petites choses, des petits détails mis dans le dessin auxquels on ne prête pas forcément d'attention quand on essaye de lire relativement vite ou même à vitesse normale le comic, mais voilà, qui peuvent être très utiles. Et tout ça se continuera, et c'est bien écrit, se continuera là où les mondes et les futurs s'arrêtent, where worlds and futures end.
Ah, donc c'est le fameux event qu'on va avoir à la fin des deux séries hebdo, quoi, au mois de mars-avril, quoi.
Voilà, donc quelque chose qui en dit long sur le futur. Franchement, un bon épisode, mais alors vraiment, c'est vraiment pas lisible par un néophyte, clairement. Par un néophyte de l'univers DC, vous allez rien capter, quoi. Déjà, vous saurez pas forcément qui est Booster Gold si vous connaissez que le New 52 récent, c'est-à-dire vous n'avez pas suivi la première année, ou vous n'avez pas suivi Justice League International. Et c'est très complexe, quoi. On passe par plein d'univers. Vraiment, il faut une solide connaissance DC. J'avoue que même moi, j'ai été perdu plusieurs fois. Là, c'est en le refeuilletant pendant que j'en parlais que certains trucs me sont apparus plus clairs. Et c'est pour ça que je dis que plusieurs lectures sont nécessaires pour cet épisode, je pense. Donc, un bail, mais pour les hardcore DC, quoi. Ou ceux qui s'y intéressent très profondément. Voilà, donc Bruno, je t'encourage à le lire vraiment
bah,
parce
oui,
que
oui, tout à fait, bah,
je sais que tu n'as pas eu le temps et puis comme on n'était que deux, on a vraiment disséminé les lectures pour essayer d'en faire un maximum pour vous offrir un maximum de reviews possibles. Mais vraiment bon épisode et je t'encourage à le rattraper le plus rapidement possible.
Ouais, tout voilà. À fait. Pour faire plein de théories.
Allez, on continue avec notre dernier review d'essai de la semaine, Injustice numéro 12, Bruno.
Oui, donc la version papier du final de la deuxième saison d'Injustice. Avec Tom Taylor au scénario et au dessin, on a Bruno Redondo et Xer Manico. Avec, pour une partie des dessins à l'ancrage, notre ami Julien Hugo Narbert. Et donc, c'est la conclusion dantesque de cette deuxième saison. Un truc complètement fou, où en fait, on a un Superman complètement taré qui, maintenant, possède un anneau de Yellow Lantern. Donc, et qui utilise la peur de toute la Terre pour pouvoir augmenter sa force. Et en fait, il décime complètement tout le Green Lantern Corps. C'est une boucherie totale. Voilà, il y avait le Green Lantern Corps qui venait sur Terre pour essayer de rétablir un petit peu la justice et arrêter Superman, mais franchement, ils se font défoncer. On a Sinestro, en plus, qui arrête pas de manipuler ce pauvre Superman. On a droit, justement, à une scène avec John Stewart qui est assez touchante et qui du coup amène à une confrontation entre Hal et Guy qui est plutôt expéditive et le tout est vraiment toujours très bien écrit, c'est hyper rythmé et ça se termine sur une note hyper noire, hyper sombre. Waouh, ça on a qu'une envie, c'est d'enchaîner avec la saison 3 qui heureusement va commencer très prochainement puisqu'elle est annoncée je crois pour octobre. Donc voilà, il y a très peu d'attentes. Une saison 3 qui sera plus sur le monde magique. Heureusement, pour apporter un petit peu d'optimisme quand même, on a un épilogue qui est juste sublime, qui revient sur Green Arrow et sur Black Canary. Et voilà, c'était vraiment excellent avec de Dr. Fate qui fait quelque chose de cool et de badass. Et ça, c'était vraiment cool. Donc super bonne lecture. Injustice, c'est vraiment un des titres d'essai que je prends le plus de plaisir à lire. Et je suis vraiment ravi que le titre arrive très prochainement en français, parce qu'il mérite d'avoir encore plus de focus hein, sur ce titre de qualité, qui sent tellement bon les pré-New 52.
Et comme on le répète assez souvent, mais je pense que ça fait jamais de mal de réinsister un peu, ce n'est pas lisible uniquement par les gens qui ont joué au jeu.
Oui, tout à fait, puisque en fait déjà ça se passe avant le jeu, et voilà, si on commence avec le premier volume, la première saison, ben voilà, on a le début de l'histoire, et après on se laisse mener, c'est vraiment vraiment passionnant quoi.
Bon, en tout cas, tu m'as convaincu hein, de donner vraiment une chance à cette série, de l'essayer, parce que ça a l'air tellement énorme, il se passe tellement de trucs de ouf dedans.
Ils font n'importe quoi dedans. Il peut tout se permettre, Tom Taylor, un petit peu comme ce qu'il faisait sur certains numéros d'Earth 2. Mais là, voilà, il touche au personnage classique.
Et justement, voilà, je vais quand même tenter, dès que j'aurai un peu de temps, parce que malheureusement, c'est le temps qui me manque pour rattraper toute la lecture que j'ai en retard, on y reviendra tout à l'heure, ce petit problème de retard. Mais effectivement, ouais, j'ai vraiment envie de lire ça, parce que tu m'as vraiment donné envie, quoi. Voilà, c'est tout pour notre partie DC. On va conclure avec les TP sortis cette semaine chez DC. Alors déjà, le gros, le lourd, le Batman Death of the Family Book and Joker Mask 7. Et oui, donc le fameux Death of the Family en TP, ainsi que le masque du Joker, un masque effrayant à souhait, et on ne rigole pas, sérieusement, ne faites pas de blagues aux enfants avec ça, vous allez les traumatiser, putain.
C'est
vraiment
énorme.
Tu m'as envoyé une photo du masque tout à l'heure, parce que là, en plus, ce soir, tu enregistres à la boutique, pour des raisons de planning, tu as pu m'envoyer une photo du masque, j'ai halluciné à quel point le masque est dégueulasse, mais beau, quoi.
Ah, mais c'est excellent. Disons que ils avaient déjà fait un pack avec la cour des hiboux, où on avait un masque de la cour des hiboux qui était en plastique, un petit peu cheap, et du coup, bon, c'était vraiment juste pour le côté un peu collector de l'objet. Mais alors là, ce masque, c'est en latex avec des cheveux verts et tout, c'est hyper détaillé, hyper dégueulasse, et c'est parfait pour Halloween, hein, donc un beau cadeau, ça c'est sûr à faire.
Ça vaut 40$. Franchement, le masque, voilà, vous ne le trouverez que là, normalement. Je ne crois pas qu'il y ait de sortie.
Ouais, je ne crois pas qu'il soit vendu séparément, ouais, tout à fait.
Mais vraiment, là, superbe, hein, superbe, avec cheveux, etc. aussi. Tu l'as dit tout à l'heure.
Ouais.
Pas besoin pour vous de racheter une perruque pour être le Joker, quoi.
En plus, voilà. Et si vous êtes chauve, comme ça, vous pourrez avoir des cheveux.
Non, mais enfin, c'est aussi un point à prendre en compte quand on veut vraiment se faire un déguisement de Joker, par exemple pour Halloween. On n'a pas besoin de s'acheter de perruque, on a déjà juste le masque et la perruque incluse. Donc, ça fait 2 ans d'un finalement.
Voilà, si vous voulez voir un visuel, je vous invite à aller sur la page Facebook de Pulse Bordeaux où on a déguisé Spider-Man avec le masque du Joker.
Oh, ce crossover!
Crossover de la mort!
Donne des idées à Bendis, toi, vas-y. Allez, on continue avec l'univers Batman encore. Batman Gordon of Gotham en TP, c'est vraiment du vieux matos. Oui, c'est comme c'est malin à la sortie de Gotham, évidemment. Gotham, la série télé hein, dont on parlait hier soir dans le Weekly News. C'est au prix de $20 et ça contient les 3 mini-séries concernant Gordon et le GCPD. Vous avez Batman Gordon of Gotham, Batman GCPD et Batman Gordon's Law. C'est du matériel des années 90. C'est écrit par Denis O'Neill notamment, avec du Dick Giordano au dessin et du Klaus Janson. Du vieux matos qui est difficile à trouver aujourd'hui, donc pourquoi pas vous jeter dessus
idée,
et puis avoir du focus sur Gordon, c'est plutôt cool. On continue avec un omnibus magique. Oui, j'ai envie de garder cette expression qui est complètement con, mais ça me fait marrer. Flash Omnibus volume 1, c'est du hardcover, ça vaut $100. Et ça va reprendre le showcase numéro 4, qui, comme chacun le sait, est la première apparition du Flash Silver Age, évidemment, Barry Allen. Juste avant la sortie de la série Flash. Oh, comme c'est étrange. Peut-être un hasard de calendrier ou pas, le Showcase 8, le Showcase 13 et 14, ainsi que les Flash numéro 105 à 132, puisque la série du Silver Age avait repris au numéro 105 la numérotation de la série Flash qui avait dans les années 40 et 50, la série avec Jay Garrick.
D'accord.
Voilà. Donc tous ces épisodes remis ensemble dans un gros format, un omnibus, pour $100, avec bien sûr Carmine Infantino au dessin, celui qui a donné ses lettres de noblesse au Flash, évidemment. On continue avec, alors ce sont des choses qui sortent en français, mais vraiment, puisqu'on avait eu un mail hier soir de Hadge qui nous parlait de ses problèmes, notamment avec Infinity pour les TPB, sachez que sort actuellement en TP aux États-Unis les Forever Evil, les mini-séries tie-in. Forever Evil Argus au prix de $15, Forever Evil Blight au prix de $25, parce que là c'est un gros crossover entre différentes séries, vous avez Justice League Dark 24 à 29, Phantom Stranger 14 à 17, Constantine 9 à 12 et Trinity of Sin Pandora 6 à 9, donc tout le crossover au sein du crossover, c'est-à-dire Blight qui est un crossover au sein de Forever Evil qui est compilé dans ce tome à $25, et enfin Forever Evil Rogue's Rebellion est à prix de $17 parce qu'il contient donc la mini-série ainsi que le Flash 23.1 Rogues. Ça sort en français effectivement, mais je voulais le mentionner pour ceux qui achètent le LaVO et qui voudraient se procurer Future's End. Voilà.
Ouais. Pour avoir avis.
Forever Evil. le mec il confond, quoi.
C'est les mêmes initiales.
Mais ils sont cons, ils font des crossovers qui commencent par les mêmes lettres, quoi. Putain, ils sont chiants. Oui, il suffit juste d'une lettre pour me perturber, c'est tout. Encore que ce n'était pas un cul, parce que là, je m'en serais parmi. Oh putain, il y a de l'humour ce soir.
Hein. Oui.
Dernier TP de la semaine chez DC, Harley Quinn Vengeance Unlimited. C'est la suite et fin de la série de Harley Quinn, les épisodes 26 à 38. Harley Quinn version pré-New 52. Edgy Lieberman au scénario, Michael Dolston au dessin. C'est au prix de $20. Voilà, c'est tout pour notre partie DC. On va démarrer avec notre partie 1D. Je vais me reposer un peu pendant que Bruno nous parle d'une arrivée chez Dark Horse. On avait parlé de Prometheus la semaine dernière. Et voici l'arrivée d'Alien.
Oui, Aliens numéro 1, Fire and Stone, écrit par Chris Robertson avec Patrick Reynolds au dessin. Et donc voilà, c'est toujours dans c'est tagué Fire and Stone, puisque tous les titres qui vont sortir chez Dark Horse, que ce soit Prometheus, Predator, Alien vs Predator, sont dans la même continuité. Et justement, ce numéro d'Aliens va nous permettre de comprendre certaines choses qui se sont passées dans le numéro 1 de Prometheus, puisque là, on va découvrir ce qui va arriver à une colonie qui se trouve pas très loin de la planète où a lieu l'action de Prometheus, qui se fait attaquer par des aliens, et ils vont s'enfuir en perdant quand même pas mal de monde au passage, et atterrir sur Prometheus, sur la planète de Prometheus, et c'est un vaisseau qu'on a pu voir effectivement dans le Prometheus numéro 1. Donc les titres sont bien connectés, mais on peut quand même apprécier l'histoire de Aliens juste dans cette série-là. Et c'est bien mené, on retrouve bien l'ambiance par exemple du deuxième film de James Cameron, puisque c'est un peu le même principe, hein, une colonie avec une grosse attaque de différents aliens, pas mal de personnages avec des personnalités très très différentes. On a quand même un personnage qui ressort du lot, qui a l'air très charismatique, un ingénieur qui va prendre les choses en main, mais qui n'est pas aidé en fait par ses compagnons qui sont quand même un peu des gros boulets.
Est-ce qu'il y a un bishop ?
Il y a pas de bishop pour le moment. À savoir que ça se passe quand même dans le futur, hein, c'est 2179, donc ça se passe bien après Aliens ou Alien 3.
Mais il pourrait y avoir un Bishop Mark 8, hein,
mais
sais rien,
il pourrait y avoir un cyborg, mais là pour l'instant on n'en a pas. Il y en avait un dans Prometheus par contre, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après graphiquement, je suis moins convaincu que le numéro de Prometheus, que j'avais trouvé quand même plus beau. Là c'est parfois un peu bâclé au niveau de certains visages, par contre l'ambiance est là, c'est à dire que c'est assez crade, assez sale, et ça c'est bien retranscrit. Donc pour moi c'est un gros check-it tendance buy, hein, pour les gens qui ont envie de suivre cette nouvelle saga Fire and Stone. Ça continue bien et du coup moi ça me rassure, parce que je comptais beaucoup sur cette série pour me replonger justement dans du bon Alien, et pour l'instant ça tient, ça fait le job, quoi. Donc voilà, plutôt content.
Ok, nous allons continuer avec du Image maintenant. Outcast numéro 4, cette série de Robert Kirkman et Paul Azaceta. Série qui vend énormément, hein, puisque le premier numéro, on est rendu à son cinquième print.
Bah oui, Kirkman, quoi.
Ah ouais, non, mais ça marche, quoi. C'était pas obligatoire que ça marche à
non,
ce
non,
point.
Non, c'était pas obligatoire, mais c'est de qualité, donc c'est mérité. En tout cas, premiers.
Oui, voilà. Dans ce quatrième numéro, tout s'écroule. C'est
merde.
Non, je déconne. Non, ça reste vraiment au même niveau. Ça reste très très bien. Kirkman établit peu à peu son univers. Je rappelle qu'à la fin du troisième épisode, un détective venait demander de l'aide à notre héros, dont j'ai définitivement du mal à me rappeler son nom. C'est incroyable. Le mec est tellement transparent. Il est presque spectateur de sa propre série.
Je pourrais pas t'aider parce que moi aussi, je n'ai pas retenu du coup.
Mais oui, non, mais c'est. C'est ça, son nom est assez peu répété, hein, comme souvent dans la vie. On te donne pas ton prénom à chaque fois qu'on te parle, quoi.
Appelle-le le protagoniste principal.
Mais voilà, c'est Kyle. Voilà, Kyle, il s'appelle. Mais c'est marrant qu'on ait du mal à se rappeler de son prénom. C'est marrant, et en même temps, ça vient peut-être que de nous deux, peut-être parce qu'on lit beaucoup, etc. Peut-être que vous n'avez pas de mal à vous rappeler son prénom. Mais je trouve que ça correspond tout à fait avec ce mec qui est presque fantomatique dans sa propre série, quoi. Il est là, il parle pas beaucoup, il fait, je vais pas dire qu'il fait office de tapisserie, ce serait pas vrai, mais il est tellement spectateur de tout ce qui lui arrive que finalement on arrive à l'oublier. On se met presque à sa place, et finalement son prénom deviendrait presque le nôtre, tellement le mec est facile à rentrer dedans, quoi. Il n'y a pas de vanne sexuelle, Avant que ça dérage, avant que ça, ça dérive. Alors donc, ce détective venait lui demander son aide, puisque et on se demandait pourquoi ça s'arrêtait comme ça, c'était le cliffhanger de fin du 3. L'explication, c'est simplement que son partenaire a tué sa femme, et il est persuadé que son partenaire est possédé, parce que son partenaire n'était plus lui-même au moment des faits, et d'ailleurs, il ne l'est toujours pas. Et la grande question de cet épisode, c'est est-ce que Kyle va accepter ça? Est-ce qu'il est prêt à s'accepter en tant qu'exorciste? Est-il prêt à franchir le pas? Il commence à avoir envie d'aider les autres, finalement, d'avoir aidé plusieurs personnes lui donne envie d'aider les autres, il sent qu'il est fait pour ça, mais est-il seulement prêt à l'accepter? Et il va donc demander conseil à son ami le pasteur, et voilà, qui vont partir tous les deux, et lui, lui donnera la réponse à sa question, et l'aidera dans son choix. Kirkman nous place en parallèle d'autres petites intrigues, notamment une ancienne... possédé, que ce pasteur avait aidé il y a un an, et qui ne peut pas supporter la vie de Kyle. Peut-être reste-t-il quelque chose de démon en elle. Sûrement une intrigue qui se met en place. On revoit aussi la sœur de Kyle, dont l'ancien petit ami qui l'a tabassé s'était fait tabasser dans le dernier épisode. Je sais pas si tu t'en rappelles, de cette scène, Bruno, aidé par son mari flic. Justement, confrontation entre le mari et, donc sa femme, donc la sœur du héros, qui se passe pas forcément très bien. Et puis, enfin, un mouvement de cet homme magnéto là, l'homme mystérieux là, qui surveille les moindres faits et gestes de Kyle et qui a trouvé un moyen tout particulier de le surveiller. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment très bien. La fin de l'épisode, ben je vais pas vous la révéler parce que ça répondrait à une question que je vous ai posée un petit peu en guise de teasing. En tout cas, ça nous laisse un cliffhanger assez sympathique. On nous promet que Kyle va affronter la plus grosse menace qu'il ait eu à affronter jusqu'à présent. En même temps, il y a que 4 épisodes, hein, donc c'est pas très dur de dire ça. Mais bon, ça donne envie d'aller voir. Ça reste une série très bien foutue. J'en suis le premier surpris parce que honnêtement, j'y avais été en me disant bon, un projet de Kirkman, un autre. Voilà, est-ce que le mec en fait pas trop? Est-ce que c'est pas encore trop pour le fric, sachant que ça va être adapté en série télé, que c'était vendu comme ça? Paul Azaceta sublime les pages, clairement. L'ambiance qu'il met donne vraiment son charme à la série. Et clairement, c'est vraiment bien maintenu, donc je suis très content. J'avais peur du truc qui tire un peu sur le porte-monnaie, et pas du tout. J'attends cette série avec impatience. En général, c'est même quand elle sort, une des premières séries que je lis cette semaine-là. Et d'ailleurs, ça a été mon premier épisode de lui cette semaine. Je ne dirai pas où, hein, parce que...
On n'a pas besoin de savoir.
Vous n'avez pas besoin de savoir, exactement. Mais je dirais qu'il s'est passé quelque chose, comme il s'est passé hier soir durant l'émission, que personne n'a entendu, mais que Bruno et Benny savent.
Bref, l'anecdote de l'enfer.
C'est de la grosse private joke, j'en suis désolé, mais voilà. Bruno a compris où je l'ai lu. C'est très très drôle. Nous allons continuer avec Image, Bruno. Ah, c'est un bail, évidemment, au cas où c'était pas clair. On va continuer avec toi, Bruno, sur Image, sortie d'une nouvelle série qui s'appelle Roche Limite.
Oui, c'est écrit par Michael Moretti, avec au dessin Vic Malhotra. C'est une nouvelle série de science-fiction avec un concept un petit peu barré.
Ça va, les ficelles éculées, non?
Puisqu'en fait, Roche Limite, ça va s'intéresser à l'exploration spatiale. On est dans un futur dans lequel en fait les États-Unis et la Russie lors d'une expédition pour aller sur Andromède, enfin dans la constellation d'Andromède, ont découvert un trou noir en fait, mais un trou noir tout particulier puisqu'il n'a pas vraiment les mêmes propriétés qu'un trou noir classique, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet sur la gravité, c'est-à-dire qu'il attire pas les choses vers lui, mais par contre il consomme tout ce qu'on jette dedans en fait. C'est assez mystérieux comme phénomène physique. Et du coup,
je me permets juste de te corriger. Hein. C'est pas une constellation Andromède, c'est une galaxie. Hein.
Vers la galaxie Andromède. Alors voilà. C'est pas...
Moi, je me rappelle avant qu'on ait des commentaires haters de tous nos de tous nos amis astrologues, astronomes. Oui, oui. Oh astronome, oh mon Dieu, excusez-moi, je fourche.
Astrologue.
Astronome. Pardon. Voilà. Putain, mais je voulais justement éviter
c'est
de
commenter. Madame Soleil qui va nous envoyer des commentaires.
Et de l'au-delà.
Et donc en fait, il y a un billionnaire qui va Langford Skarsgård, dont le rêve est justement l'exploration spatiale, qui va installer une colonie à proximité de ce trou noir sur une planète qui s'appelle Dispater, une toute petite planète qui a un petit peu les mêmes propriétés que la Terre. Et du coup, il va y fonder une sorte de société un petit peu utopique. Là, j'y ai revu clairement un parallèle avec BioShock, puisque c'est un petit peu la même idée. Et en fait, ça va, tout comme dans BioShock, ça va péricliter très rapidement, puisque à cause de tous ces gens très riches et qui veulent faire un peu n'importe quoi avec leur argent et avec la science, eh bien ça va se transformer en un gros bouge où il y a plein de malfrats, où tout part en vrille. Et donc l'histoire commence avec une sorte d'agression sur une astronaute, une femme qui se fait frapper, et il lui arrive quelque chose d'assez dramatique. Et après, on va un petit peu quelques jours plus tard, et on va découvrir la sœur de cette jeune femme qui fait une enquête et qui essaye de retrouver sa sœur. Et donc on la voit aller un petit peu dans différents endroits présenter la photo de sa sœur. C'est l'occasion de découvrir un petit peu comment est la topographie de cette colonie. Et lors de son investigation, elle va rencontrer un mec qui va se proposer de lui donner un petit coup de main après une scène d'action plutôt sympathique. Et donc de là va se développer une sorte d'enquête policière pour rechercher justement cette jeune femme. En parallèle, on va découvrir des gens assez mystérieux, pas très patibulaires, non, plutôt patibulaires, je veux dire, qui font des sortes d'expériences, on ne sait pas, sur des gens qui ont été enlevés. Et enfin, ça termine avec une page. Voilà, j'ai rien compris. La dernière page. Là, c'est vraiment la page. Ils te foutent une page juste pour te dire, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Oh, faut que je dise absolument la suite, sinon je vais rien comprendre. C'est sympathique. Par contre, j'ai pas été hyper pris. J'ai pas trouvé le truc très original dans le sens où, comme je te dis, j'ai vu des influences un petit peu de BioShock. Et il y a surtout le fait qu'on a une série que j'aime bien, qui est Fuse. Qui se passe pareil dans une sorte de colonie spatiale dans laquelle on a des enquêtes policières, ça m'a fait penser beaucoup à ça. Et du coup voilà, j'ai lors de ma lecture, j'étais pas hyper hyper passionné. Ouais, il y a de bonnes idées. La fin du coup, bah ça a remonté un petit peu mon intérêt, donc j'irai probablement quand même voir au moins le deuxième numéro. C'est une série qui est prévue pour faire une trilogie de mini-séries, 3 fois 5 numéro. Donc ce sera en fonction du succès, je pense, du comics. Mais bon, ça a l'air assez ambitieux. Côté graphique, c'est sympa, sans plus. Enfin, disons que c'est pas fantastique. C'est quand même très propre. Hein, mais voilà,
Ah,
j'ai
c'est
connu.
dommage parce que du coup ça me donnait envie hein, ce que t'en racontais vraiment. Comme tu dis, hein, les influences de Fuse ou de BioShock se sentent, mais ça me donnait quand même envie d'aller voir. Mais là, si tu me dis que le côté
Mais
graphique,
il faut feuilleter parce qu'après c'est pareil, hein, c'est toujours très
oui, c'est les goûts et les couleurs
c'est les goûts et
évidemment,
les
mais
couleurs, mais il y a deux trois scènes où je trouve que c'était pas très bien défini, les visages et tout. Vers la fin, ça a tendance à s'améliorer, on a presque l'impression qu'il y a deux dessinateurs. Mais voilà, mais pour moi c'est vraiment juste un check-it, ce numéro.
ah ouais, juste un check-it, même
C'est juste un
pas.
check-it, j'irai voir le deuxième et en fonction de ça, je saurai si oui ou non je continue la série, mais là, je suis pas sûr de faire tout le premier arc, quoi.
Le problème, c'est qu'on est chez Image. On sait très bien que les créateurs travaillent aussi sur leur propre denier, que Image peut dire bon, stop, ça suffit. Et le souci, c'est que prévoir une trilogie mini-série.
Le titre a bonne presse, hein, donc il est déjà en rupture le premier numéro, donc il a dû y avoir un bon bouche à oreille.
Ouais, mais attention entre l'effet premier numéro
C'est ça,
et la
mais
suite.
j'attends de voir le deuxième quand même pour me prononcer sur la qualité de l'histoire.
Je rappelle qu'on attend toujours la fin de certaines séries comme Jupiter's Legacy. Ou même,
Ah là là.
une série à laquelle je n'avais pas pensé depuis un petit moment. J'y ai repensé il y a 2-3 semaines. Rappelle-toi cette série. Ah, ben voilà, le nom me rééchappe. Chin Music,
Ah
voilà.
oui, Machine Music, il y a eu deux numéros et le
Deux
troisième
numéros.
a été repoussé, repoussé, repoussé et j'ai l'impression que ça sent l'annulation.
Le deuxième numéro est sorti en août 2013, hein, pour
Voilà.
rappel, cette série de Steve Niles, dessinée par Tony Harris, qui était vraiment, vraiment bizarre, mais alors en rangeant certains numéros, je me suis dit, tiens, c'est vrai, j'avais ça. Ah putain, la suite n'est
Ah
jamais
ouais, non, non,
sortie, c'est vrai.
y a pas eu de suite.
C'est un peu le problème des histoires indépendantes, hein, enfin, des petits éditeurs indépendants. Et même si Image n'est plus un petit éditeur indépendant, ça reste du creator-owned et c'est une des possibilités de ne jamais avoir une histoire terminée.
Après, là, il y a aussi le fait que bah, toutes les semaines, on a des nouvelles séries qui commencent. On en a parlé lors de nos weekly news, mais il y a beaucoup de séries de science-fiction qui vont débarquer. Il y en a certaines dont le pitch me tente beaucoup plus. Et donc voilà, je peux pas tout suivre non plus. Et celle-là, c'est clairement pas une qui m'a captivé dès son premier numéro, quoi. C'est un petit peu
Pourtant,
comme Red, je sais plus quoi là. Une fois, j'avais chroniqué qui était un peu moyen là, qui était sur Mars là, je sais plus quoi. Mais
Non, mais pourtant, l'aspect BioShock aurait pu te séduire, justement, de
BioShock,
retrouver cette
oui, mais
ambiance BioShock que
il
tu
n'y a
n'as plus
pas,
avec le jeu vidéo.
y a pas l'esthétisme, justement, qui faisait la force de BioShock.
Ah, bah, BioShock, il y avait ce
De
côté.
l'originalité, quoi, de
Oui.
ce côté un peu, voilà, les années 40, complètement déformé avec des mutants et tout, ça, c'était tout de suite assez captivant, quoi.
Ouais. On va continuer toujours chez Image avec la sortie deuxième numéro de Wayward, une petite surprise sympathique, mais doit faire ses preuves du mois dernier.
Moi, j'avais trouvé que c'était un bon titre pour les ados.
Ouais, alors une histoire de Jim Zub avec des dessins de Steve Cummings. Donc je rappelle un des dessins très typés manga, puisque l'histoire se passe au Japon, une Irlandaise nommée Rory. Qui a des pouvoirs étranges depuis qu'elle est arrivée au Japon, ou peut-être même avant, c'est encore un peu confus, hein, savoir si elle avait ces choses avant d'arriver au Japon. Arrive chez sa mère, elle s'entend mal avec son père, ses parents ont divorcé, sa mère étant japonaise, son père étant irlandais, elle vivait avec son père jusque-là, et bah, ça se passe mal, et elle décide d'aller vivre chez sa mère. En arrivant au Japon, elle va faire une petite balade dans les rues, et va se faire agresser par des espèces de démons japonais,
Kappa.
et elle va être voilà, merci, je me rappelais plus le nom. Et elle va être sauvée par une espèce de femme, moitié chat, en tout cas une espèce de catwoman bizarre japonaise qui attire les chats, etc., et qui peut battre les démons, qui s'appelait Ayane. À la fin du premier épisode, Ayane disparaissait. D'un seul coup, comme ça, Rory se retourne et pouf pouf, elle est plus là.
Qui c'est que tu traites
Et
de
du coup.
pouf?
Oh non, pas du tout. Du coup, Rory rentre chez elle, persuadée que sa mère va la déglinguer parce qu'elle a passé toute la nuit dehors, et bien non. Non, non, sa mère lui dit rien. Et les jours continuent, et elle va reprendre l'école, puisque au mois d'avril, c'est là que recommence l'école au Japon. Elle va donc reprendre l'école, essayer de se familiariser, et son pouvoir va faire des siennes en lui montrant quelqu'un. Vous savez, ces espèces de fils rouges qui lui montrent un espèce de chemin à suivre. Ces fils rouges vont lui montrer quelqu'un qu'elle va suivre après la sortie de son école, et va s'apercevoir que ce personnage a lui aussi quelques démons, attention jeu de mots, en lui. Je vais pas en révéler trop, ça reste encore un numéro d'exposition, c'est un peu un problème. On a comme une info très intéressante sur Rory que je vais bien me garder de vous révéler ici, mais en tout cas un problème personnel. Moi j'ai trouvé que c'était un peu too much de lui ajouter ça en plus, mais bon. Voilà, vraiment, je vous laisse découvrir, je laisse vraiment planer le maximum de doutes dessus. Allez voir pour comprendre ce dont je parle. En tout cas, ce personnage dont j'ai oublié le prénom, malheureusement, j'essaie de le retrouver, c'est
C'est pas
très pro
Kyle.
ça. Non, c'est pas Kyle. Il s'appelle Shirai, voilà.
D'accord.
Shirai et Rory vont trouver une sorte de terrain d'entente, et Ayane n'est peut-être pas si loin que ça. Alors, je n'ai malheureusement encore une fois pas eu le temps de lire toute la postface, tout ce qui explique un petit peu l'ambiance du Japon, etc., qui revient notamment sur la façon dont l'école est différente au Japon. Ce qui est toujours intéressant, hein, ces essais de société, qui nous montrent un petit peu comment se passe la vie ailleurs, c'est toujours
J'avais bien aimé
sympathique.
ça, ouais, dans le.
Je n'ai pas eu le temps de lire là pour celui-ci. En tout cas, un numéro qui, bah, est sympathique, mais pour le moment, cette série, pour moi, continue de devoir faire ses preuves. On nous l'a vendu un peu comme un Buffy à la japonaise. Il faut que ça démarre, quoi. Il faudrait que ça démarre. C'est pas encore ça. Je comprends qu'il faille mettre en place la situation. On n'a que 22, 24 pages pour faire un épisode. C'est pas comme un épisode de 40 minutes d'une série, effectivement, d'une série télé. Mais bon, c'est sympathique. Ça va être un check-it, quoi. Un check-it, si.
Elle recrute les membres de son équipe, on a l'impression, là, c'est d'après ce que tu dis.
Exactement, c'est un peu l'impression que ça m'a donné. Reste à voir si Ayane fera partie de son équipe ou pas. Peut-être sera-t-elle un antagoniste, on ne sait pas. À voir. Pour le moment, ça reste sympa. Je crois que malgré tout, c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui,
C'est
c'est ça.
pas à jeter. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui sont plus prioritaires sur votre liste que cette série si vous ne l'aviez pas entamée. Si vous êtes en recherche de nouveaux titres à essayer, allez-y, faites-vous plaisir. Ça reste sympa néanmoins. Donc, check it pour ce deuxième épisode de Wayward. On termine avec deux nouveautés, Bruno. Une première qui s'appelle le Town Called Dragon.
Oui, et c'est mon coup de cœur de la semaine. Bam. C'est chez Legendary Comics. C'est écrit par Judd Winnick avec Jeff Shaw au dessin. Et déjà, moi, ce qui m'a surpris quand j'ai pris le comic, c'est je l'ai sorti du carton, c'est l'épaisseur du truc. C'est-à-dire qu'on a 55 pages de BD pour 4 balles. Et déjà, tu te dis, c'est cool. Et après, j'ai feuilleté, j'ai fait,
Prends-en
ah,
de la
mais...
graine, Marvel, prends-en de la
Et
graine.
après, j'ai feuilleté, j'ai fait, ah, mais en plus, c'est super joli. Donc, je me dis, bah, je vais lire ça. Et l'histoire est excellente. Alors, donc ça commence avec une scène qui se passe en Norvège, pendant l'année 1000, où on voit des sortes de guerriers qui combattent des dragons. Donc on se dit, ah tiens, on est sur un élément fantastique un petit peu. Et très rapidement, on se rend compte qu'en fait, ils sont en train de terrasser le dernier dragon présent sur Terre. Et malheureusement, il reste un œuf. Un œuf qu'ils aimeraient bien détruire pour pouvoir éloigner la menace des dragons à tout jamais sur la Terre, mais cet œuf est impossible à détruire. C'est-à-dire ils essayent toutes les façons possibles de le casser, les haches, ils font tomber carrément un mur dessus, rien n'y fait, l'œuf est indestructible. Donc du coup, le roi demande à ses hommes d'emmener l'œuf et de le cacher le plus loin possible. Et donc du coup, ils vont traverser l'océan Atlantique, ils vont débarquer bien sûr aux États-Unis, une époque où il y avait encore voilà, enfin on les voit, ils trouvent personne. Et ils vont aller se mettre dans le nord, dans une grotte, le cacher, sceller la grotte, s'enfermer dedans, et voilà, donc ils vont cacher cet œuf. Après, l'histoire part en 2014 dans une ville qui s'appelle donc Dragon, puisqu'il y a des légendes comme ils ont retrouvé des armes de Vikings qui présentaient des sortes de motifs avec des dragons. Ils ont beaucoup capitalisé sur ce côté-là en appelant leur ville Dragon et en faisant pas mal de merchandising là-dessus. On va découvrir tout un cast, une petite de personnages américains assez sympas, dont le tenancier d'un café qui a pas mal de charisme. Et en fait, l'histoire va s'emballer quand un des membres de la ville, qui est dans une expédition justement d'escalade, va tomber sur un groupe d'Allemands qui font des recherches géologiques et qui vont découvrir ce fameux œuf. Bien sûr, là, ça va partir en freestyle. C'est vraiment très riche. Le fait d'avoir 55 pages de comics, ça permet d'avoir un développement des personnages bien concret et bien touffu. Et du coup, chacun des persos, voilà, est tout de suite intéressant, dont le héros est justement aussi cette personne qui a découvert ces fameux scientifiques allemands là dans la montagne. Et puis, on a droit à un très bon cliff, une scène d'action assez sympathique, bien bien gore. Et bah, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite, parce que ça va partir dans quelque chose d'assez épique. Donc pour moi, c'est vraiment, j'avais envie de mettre en avant ce titre, car il mérite. D'un point de vue graphique, c'est vraiment très beau. En plus, il y a vraiment pas mal de beau travail qui a été fait, que ce soit au niveau des décors, des différents personnages. C'est cool, quoi. Et il y a de l'humour un petit peu. Et donc voilà, gros gros coup de cœur pour ce titre. Un gros bail.
Peux-tu rappeler le nom du dessinateur, ce
Alors c'est
jeu?
Geoff Shaw, Shaw. Son nom ne me dit rien, mais voilà, il a peut-être travaillé sur d'autres choses. Mais en tout cas, bon, Jude Winnick, on sait qu'il a fait quand même pas mal de mainstream. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Et donc il devait travailler sur ce projet. Ça sent le projet qui pourrait très bien être adapté au cinéma, sachant que Legendary est une boîte comics très liée au studio Legendary Pictures. Peut-être que ça amènera sur un film.
En tout cas, j'étais passé complètement à côté de ce truc, hein.
Bah moi aussi je l'avais vu dans le preview il y a 2 mois, je me suis dit tiens la couverture est cool et j'en avais commandé quelques-uns, mais j'aurais aimé en commander plus en fait, parce que si j'avais su à quel point c'était cool. J'en aurais pris beaucoup plus.
Mais c'est vrai que Winnick, on ne l'avait pas vraiment revu depuis Catwoman qu'il avait quitté en
Ouais, c'est ça,
2012,
ouais,
quoi.
au début des New 52,
Il avait fait 12 numéros, puis il était parti. Il avait fait Batwing aussi.
Et donc voilà, 2 semaines après Annihilator, aussi chez Legendary, c'est vraiment un éditeur à suivre, parce qu'ils mettent les moyens, que ce soit au niveau de la qualité de leur papier et puis le fait d'avoir des numéros oversize, bah c'est quand même plutôt cool, quoi.
Autre numéro 1, Butterfly, Bruno.
Oui, alors Butterfly aussi, c'est un sujet qui m'intéressait, on en avait parlé dans le Weekly News. C'est écrit par Marguerite Bennett et avec Arash Amel à l'histoire. C'est Marguerite Bennett qui écrit les dialogues et le plot. Et c'est illustré par Antonio Fuso. C'est une mini-série en 4 qui est publiée chez Arkaya. Donc Arkaya, ce qui est agréable, c'est qu'on a vraiment toujours cette qualité de papier, qualité au niveau des couvertures, donc ça en fait un bel objet. Une histoire, malheureusement, pas super original et qui vraiment on a l'impression d'avoir un copier-coller de Alias, puisque on va s'intéresser à une jeune fille espion, enfin une jeune femme espion, qui bah, en fait c'est un petit peu comme dans Burn Notice. Après un événement, bah, il y a toute sa boîte qui la lâche complètement. Elle va devoir se débrouiller toute seule en terre ennemie. Et finalement, elle va trouver de l'aide dans peut-être quelqu'un de sa famille qu'elle pensait mort. Donc, c'était vendu comme un team-up intergénérationnel entre un père et sa fille. Et bah voilà, ça part vraiment là-dessus. Et on retrouve vraiment, on a l'impression d'avoir Sidney Bristow et son père. Vers la fin, il y a quand même des choses qui sont un petit peu développées sur le père qui m'ont intéressé, qui du coup ont attisé un petit peu ma curiosité. Mais j'attendais peut-être un peu plus d'originalité et je suis pas trop fan des dessins. C'est propre, c'est assez indé, c'est parfois très très simple. Alors ça peut faire penser à du Jock, mais en moins bon. Ça plaira pas à tout le monde, je pense. Voilà. Par contre, bon, c'est une mini-série. J'aime bien ce format de petite série en 4 numéros. J'irai probablement voir la suite quand même. Mais c'est pas le gros coup de cœur comme j'ai pu avoir, par exemple, sur A Town Called Dragon. Donc, pour moi, c'est un check-it. À feuilleter, voyez si le dessin ça peut vous plaire. L'histoire est quand même assez solide. C'est pas le titre qui va faire monter Marguerite Bennett dans mon cœur. Au niveau de sa qualité scénaristique, par contre.
Cool. Et niveau dialogue, ça reste peu correct
ou... C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas non plus fantastique, quoi. C'est pas du Brian Kevogan.
Bien. Oui, donc Burn Alias, si jamais vous voulez...
c'est ça, c'est un mélange des deux.
Si jamais vous avez envie d'espionnage, après tout, des séries d'espionnage, il n'y en a pas tant que ça sur le marché non plus.
Très jolie couverture de Finnoto.
Qui s'amuse à chanter, voilà. Couverture de Finnoto, hein,
c'est... Ouais, les couvertures sont très belles.
Allez, un petit point TPB, on va essayer de faire vite, parce qu'il y en a pas mal, encore une fois, cette semaine, du côté de l'Indé. On démarre avec un bouquin qui sort chez Abrams, un éditeur que je ne connais pas, au prix de $35, qui s'appelle Simpsons Family History. C'est du hardcover, et ça revient sur l'histoire de la famille Simpsons depuis 25 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est 25 ans des Simpsons cette année. Et donc, un gros bouquin qui va reprendre un petit peu la carrière, l'ensemble de la carrière, avec des petites anecdotes de Matt Groening, notamment, qui a participé... à ce bouquin, et pas mal de petites histoires qui reviennent sur l'histoire de la famille, la jeunesse d'Homer, la jeunesse de Marge, etc., ainsi que des petites anecdotes de Matt Groening. C'est au prix de $35 si vous êtes fan des Simpsons. Avatar, maintenant. Avatar Red Rover Charlie, le premier TP, sort, série de Garth Ennis et Michael DiPasquale. Les 6 premiers épisodes de cette série.
Ouais.
Tu en avais pas lu ?
Si, j'avais lu, c'est assez sympa. Après, c'est sorti en français aussi chez Delcourt le mois dernier. Donc, voilà. C'est sorti
et
en TP plutôt.
Big fail de ma part.
C'est pas grave, c'était sympathique, en tout cas, comme série. Assez hardcore.
Et big fail, j'étais passé à côté de la sortie française, tu vois. Tag sort chez Boom. C'est une série de Keith Giffen et Cody Chamberlain. C'est au prix de $15, une histoire de zombies par Keith Giffen. C'est pas classe, c'est une version deluxe.
D'accord.
On continue avec Dark Horse maintenant, Captain Midnight volume 3 en TP sort cette semaine avec les épisodes 8 à 11 de la série de Dark Horse, la série de super-héros de Dark Horse, écrite par Joshua Williamson, avec beaucoup de dessinateurs, notamment Fernando Dagnino ou encore Javier Mena.
Toutes ces séries de chez Dark Horse... qui sont sous le projet Black Sky.
Et oui, exactement.
Je sais pas comment ils font pour continuer parce que c'est pas hyper populaire. Je sais, par exemple, à la boutique, j'ai aucun client sur ces titres, hein. Mis à part moi parfois sur certains numéros. Mais voilà, c'est.
C'est énorme. Tu es ton propre client.
Ben voilà, c'est ça. Mais.
Continuons pour les amateurs de jeux vidéo avec The Witcher en TP, série de Paul Tobin, avec des dessins de Joe Cario et Carlos Badilla, des covers de Mike Mignola. Le premier TP s'appelle House of Glass, et ça reprend justement l'univers de The Witcher, le jeu vidéo. Ça contient l'ensemble de la mini-série, c'est au prix de $18. L'avais-tu lu, Bruno, cette mini-série de The Witcher ?
Non, mais ça s'est bien vendu à la boutique. A priori, c'est pas mal pour les fans du jeu. Mais j'ai pas fini le deuxième jeu, et honte à moi.
En préparation peut-être du prochain volet qui sort bientôt.
C'est
enfin,
ça.
Qui avait été repoussé, mais... Voilà. Continuons avec IDW, un Artist Edition chez IDW, au prix de $150 évidemment. Cette fois-ci, c'est un Marvel Covers Artist Edition qui va reprendre justement de grandes couvertures de, des numéros Marvel en version justement uniquement dessinée et ancrée. Et ça, c'est classe.
Ça doit être superbe. Là, c'est un peu le gros fail de Diamond cette semaine à notre boutique puisqu'ils les ont pas mis dans notre carton, quoi. Donc, on a dû râler. On en avait commandé deux et j'ai même pas pu les voir.
Et vous aurez du Neil Adams, du Art Adams, du Frank Miller, du Jack Kirby, du Jim Steranko, du Jim Starlin. Vous en aurez plein, vous en aurez beaucoup. Justement, si vous avez pas envie d'un artiste édition que sur un auteur en particulier, mais plein, c'est peut-être l'occasion. En plus, ce sont des covers. Ça reste des choses iconiques. Évidemment, hein, la cover est là pour faire vendre un maximum. Mais ce sont aussi beaucoup de vieilles covers qui représentaient ce qu'il y avait à l'intérieur du bouquin, avec des dialogues sur la cover. En plus, hein, chose qu'on n'ose plus jamais faire aujourd'hui. Sauf dans de très rares occasions. Mais à l'époque, sur la cover, les personnages parlaient. T'avais des bulles et tout. C'était à la fois mignon et à la fois horrible. Les deux à la fois, mon capitaine. Donc c'est au prix de $150, évidemment. C'est un artiste édition, c'est un grand format, hein, rappelons-le. Sam Kiss continue chez IDW avec le hardcover du Max Maximized, deuxième volume, au prix de $22. Ça continue la série de Max, évidemment. Enfin, chez IDW, nous avons The Crow Pestilence, nouvelle mini-série reprise en TPB. C'est au prix de $18. Ensuite, j'en ai oublié un chez IDW, bravo, du con. Thunder Agents, The Best of Wallywood Hardcover, voilà, une compilation d'épisodes par Wallywood au dessin, donc du vieux Thunder Agents, hein, qui je rappelle qui sort maintenant chez IDW, c'est au prix de $30, évidemment. On passe à Moonstone, petit éditeur, hein, Moonstone, qui sort cette semaine en hardcover et en softcover, donc vous aurez les deux, une édition étant plus luxueuse que l'autre, évidemment, une édition contenant 100 pages de plus que l'autre, hein, donc quand même, pour simplement $10 d'écart, la version softcover est à $14.99, la version hardcover est à $24.99, et ce sont 9 histoires one-shot, où l'on des personnages que l'on connaît, hein, The Green Llama, Richard Knight, Captain Future, Moon Man, des personnages un peu publiés par Moonstone, qui sont un peu du domaine plus ou moins public, notamment comme The Green Llama, hein, qu'on a pu voir chez Dynamite dans Project Superpowers, se battent face à des démons et à des monstres. Le bouquin s'appelle Monsters and Men. Et la version hardcover contient 100 pages de plus, avec notamment en reprint à l'intérieur aussi Domino Lady versus The Mummy, Black Bat versus Dracula et Phantom Detective versus Frankenstein. Voilà. Alors pour les amateurs de vieux personnages, de monstres, etc. De pulp, ouais, clairement. Chez Oni, nous avons Auteur en TPB, le premier volume. Cette série tellement bizarre.
Ah oui, voilà. Tellement bizarre que j'ai pas fini de la lire. Hein, tellement.
Et moi non plus. Mais voilà, le premier TP est sorti, hein, qui contient les 5 épisodes de la série, pour le moment en tout cas. $20. Enfin, un bouquin. On a commencé avec un bouquin, on termine avec un bouquin de chez Tomorrow's Publishing. Très très bonne boîte, hein, pour les fans de comics et qui ne sortent que des magazines ou des livres, qui ne sortent jamais de comics à proprement parler. Ça s'appelle American Comic Book Chronicles Hardcover pour les années 70. Ça vaut $41.95-42, hein, on arrondit un petit peu. Et c'est justement les moments pivots, les moments charnières, ainsi que les petits détails de derrière les fagots des années 70, le fameux Bronze Age. Avec justement la publication un peu année par année de ce qui est sorti, enfin en tout cas les plus grosses publications, les plus grands créateurs. Voilà, si vous voulez vraiment en savoir plus sur le comics des années 70, ce bouquin est une mine d'or. Comme tous les bouquins d'ailleurs de Tomorrow's Publishing, hein, qui font de très très bons livres. Vraiment, je le rappelle. D'ailleurs, à noter que est sorti en softcover la version 60 à 64. Voilà, en début d'année, pour ceux qui ont une bourse, pas. Bon, le bouquin était plus gros, un petit peu plus gros, et en softcover, il valait $39.95. Voilà, c'est la suite, et gageons qu'il y aura bien sûr les années 80, peut-être même en deux tomes, hein, tellement il y aura de choses à dire. C'est tout pour notre partie indé. On va terminer notre émission avec notre partie Marvel. Bruno, tu vas démarrer avec un gros événement chez Marvel cette semaine, le New Avengers 24, qui, comme sa série sœur Avengers la semaine dernière, se passe 8 mois dans le futur.
Ouais. Times Run Out. Et donc c'est écrit par Jonathan Hickman avec au dessin Valerio Chitti. Valerio Chitti, moi j'aime beaucoup. Donc c'est un des fameux Young Guns de chez Marvel. Donc c'est très propre au niveau des dessins. Un numéro, je dis tout de suite, qui m'a quand même beaucoup moins emballé que le Avengers Time's Run Out, qui dévoilait beaucoup plus de choses. Là, on va plus s'intéresser du côté à ce qui est arrivé aux nouveaux Illuminati, cette fameuse cabale, et aux conséquences justement de leurs actes. Ça commence avec une scène en Latvérie où on a Namor qui, du coup, il a l'impression de perdre peu à peu le contrôle de cette fameuse cabale, quand même, qui est composée d'individus comme Thanos, Maximus et compagnie, et donc tous les anciens suppôts de Thanos qu'on avait pu voir dans Infinity.
Ce n'est pas qu'une impression, hein. Il a perdu totalement le contrôle sur eux.
Ouais, là, il est complètement à la ramasse, et donc il vient demander l'aide du Docteur Doom pour peut-être un peu remettre les choses dans le bon ordre. Et il se fait gentiment envoyer balader par Doom, ce qui est... donc ça nous montre à quel point Namor là se trouve dans une situation assez pathétique. Ça fait de la peine pour lui. C'est l'occasion à travers certains flashbacks de découvrir justement ce qui se passe pendant plusieurs incursions où on voit que la cabale a des méthodes très barbares pour justement détruire les autres univers et empêcher la destruction de la Terre 616. Donc ça, c'est la grosse première partie de ce comics. La deuxième, c'est sur ce qu'est devenu le Wakanda, endroit où justement se réunissaient les New Avengers et les Illuminati 8 mois auparavant. On va voir un team-up entre Black Panther et la reine du Wakanda pour essayer de mettre à mal la cabale et essayer de voir Maximus, voir ce qu'il fait, et les empêcher de commettre leur faits. Et là, on a pas mal d'actions, un petit peu d'émotion justement entre les deux anciens leaders du Wakanda. Et là, j'ai trouvé que cette partie était un peu plus confuse et peut-être moins passionnante par rapport aux conséquences 8 mois plus tard.
Bah, on a beaucoup d'infos, on assiste à... Enfin, on nous fait comprendre qu'il y a eu la chute du Wakanda. C'est plus ou moins suggéré, et c'est, enfin, assez mal d'ailleurs, mais que finalement ce sont les pouvoirs politiques qui ont plus ou moins accepté que le Wakanda chute au profit d'être une base pour la Cabale, qui donc
Ben ça,
apparemment serait révélée aux yeux du grand public.
ouais, mais c'est les conséquences justement de la non-action de Black Panther et qui a été fortement, du coup, il a été désavoué par les anciens rois du Wakanda. Et du coup, ils ont dû apporter leur soutien à la cabale qui, eux, sont proactifs justement sur ces incursions. Et du coup, tout est parti en freestyle, quoi. Et c'est le Wakanda qui en a bien, qui en a pris plein la gueule, quoi, du coup. Et il y a pas mal d'actions, effectivement, mais bon, je trouvais ça un petit peu moins passionnant que ce qu'on a pu voir justement dans Avengers. Et enfin, il y a les conséquences justement de la venue de Namor en Latvérie avec on va découvrir un peu quels sont les plans du Docteur Doom qui n'a pas l'intention quand même d'être un acteur juste sur le banc de touche et on a droit à un twist bon, que j'ai pas trouvé super puissant parce que je suis pas un grand connaisseur de ce personnage qu'on voit à la fin et du coup c'était un peu
En
anticlimactique.
même temps, le simple fait de son nom peut expliquer ce qu'il est capable de faire.
Voilà.
Non, moi j'ai trouvé que cette dernière partie était peut-être la partie la plus intéressante
Oui,
parce
je suis d'accord aussi parce que c'est
elle
mystérieux.
nous en permet d'entrevoir des possibilités assez sympathiques et surtout une troisième force
Ouais.
au-delà des Illuminati et de la Cabale. Illuminati que l'on ne voit pour ainsi dire pas dans cet épisode.
Non.
Clairement. La partie la plus faible étant la partie avec Black Panther. Alors, c'est un numéro un peu plus gros, encore une fois, hein, comme
Oui.
celui
D'ailleurs, il est
d'Avengers
à
la semaine
5 dollars,
dernière.
hein. Ici.
Oui, bah oui, il est à 5 $. La différence, comme tu le disais, avec celui de la semaine dernière, c'est que la semaine dernière, on avait quatre petites histoires qui s'entremêlaient, qui en plus n'étaient pas racontées par chapitre, mais qui s'entremêlaient réellement. Donc on allait et on revenait sur les différents personnages. Et peut-être que ça paraissait plus rythmé. Moi, les 35 pages, là, je les ai sentis passer, quoi.
Ouais, là c'était un peu plus
Ça me
poussif.
paraissait long, quoi.
Mmh,
Ça
un
me
peu plus
paraissait long
poussif.
parce qu'on avait un chapitre sur un truc et puis après on passait à autre chose. C'était un petit peu longué. Je dois avouer, je parlais de retard en début d'émission. C'est vrai que New Avengers est une série sur laquelle j'ai extrêmement de retard. Vraiment, vraiment, si je dis à quel numéro j'en suis, c'est honteux, hein, comparé à ce numéro-là. Sachez que j'ai sauté plus de la moitié de la série d'un coup. Voilà, pour vous donner une idée. Je m'attendais à être un peu perdu. Je l'ai pas été tant que ça. Donc ça, c'est un bon point. à mettre
Ah, du coup, ça se
assez
passe de
loin.
toute façon 8 mois dans le futur, donc effectivement, même si
C'est
t'as du
pour ça que j'y suis
retard,
allé, ouais.
même si t'as du retard, c'est quand même des choses inédites, même pour les gens qui sont à jour. Donc.
J'y suis allé en me disant, bon, de toute façon, si vraiment je comprends rien, je n'en parlerai pas ce soir. Bon, j'ai quand même compris l'essentiel de l'épisode. Cependant, ça me donne moins, ça donne moins d'indices quand même que ce Avengers. Ça reste néanmoins assez flou, c'est pas trop spoilant. On faisait cette comparaison entre le Batman 28, le fameux spoiler issue, et le Avengers 35 la semaine dernière. Bah, celui-ci est du même acabit que le Avengers 35, donne des, fait plus du teasing que du spoil
Ouais,
vraiment,
c'est
en
ça.
fait. C'est ça qui est plutôt malin dans l'écriture. Mais vraiment moins convaincu comme toi que ce Avengers de la semaine dernière, des choses que je n'ai pas comprises, peut-être parce qu'il me manque des éléments clés de cette série New Avengers que je n'ai pas suivi, peut-être des petits easter eggs, enfin pas forcément des easter eggs, mais en tout cas des petits points qui font tilt à ceux qui ont lu la série en entier. Bon, cette scène de destruction m'a fait profondément chier, je l'ai trouvée extrêmement mal écrite. C'est la partie que j'ai détestée le plus d'ailleurs.
Il a voulu faire des clins d'œil à des différentes versions des personnages de l'univers Marvel. Ça m'a pas déplu dans le sens où moi justement je trouve que la Cabale c'est une association de personnages qui
De
sont vraiment
malfaiteurs.
extrêmement puissants. Et maintenant j'ai vraiment envie de les voir se friter contre les gentils et voir ce qui va se passer quoi parce que ça va être quand même assez
Ouais, mais
compliqué.
ce que je veux dire, c'est comment Namor a pu croire que ça allait être une bonne idée, quoi.
Ah bah là ouais de toute
On
façon.
Namor est con, mais enfin quand même,
Mais
quoi.
disons que le truc, c'est qu'ils étaient désespérés vis-à-vis de ces incursions. C'était soit la destruction de leur planète, soit justement trouver une autre solution. Mais voilà, ça. Après, il en a perdu le contrôle. Mais voilà, voir des personnages comme Black Swan, Maximus, Thanos et compagnie, ça va être un peu Infinity Round 2, quoi. Et ça m'intéresse. Après là, c'était peut-être un peu trop grim and gritty facile, quoi. Donc, mais.
Ouais, et puis bon, ce plan de Namor, pardon, de Black Panther, d'aller voler des bombes pendant qu'ils sont partis dans une incursion et qu'en fait Maximus et Proxima Midnight étaient restés. Bon, on nous fait entendre qu'il y a peut-être un traître dans l'équipe. Voilà, on sait qui, on se doute d'ores et déjà de qui est le traître, en
Oui.
fait. C'est un peu ça le problème.
Oui, ça s'est passé.
Si vous connaissez un tout petit peu ce qui arrive dans l'univers Marvel dans les prochaines semaines, parce que vous avez écouté les Weekly News, parce que vous vous tenez au courant un tout petit peu de l'actu Marvel, bah, alors, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être une fausse piste de la part de Jonathan Hickman. Mais on s'en doute, quoi. Et je vois mal comment cet événement, pardon, Time Runs Out, peut s'imbriquer avec Axis. En tout cas, avec ce que l'on sait d'Axis pour le moment.
Bah, ça va être la grande question, hein. Axis commence bientôt. Ça va s'enchaîner hein, les gros events hein, là déjà c'est
Parce que c'est pas déjà le cas.
bah, c'était déjà le cas effectivement Original Sin, Axis, Time's Run Out, t'as Spider-Verse aussi qui va se mettre au milieu de tout ça. C'est des
Ouais, mais
gros
Spider-Verse sera plus autocontenu, hein, quand
ouais.
même.
Mais bon. En tout cas un numéro quand même assez sympathique et avec une partie graphique réussie.
Oui, mais pour moi, ça ne sera qu'un check-it.
Ouais, moi ce sera un petit bail. Parce que j'aime beaucoup la série New Avengers.
Nous parlions justement d'Axis. March to Axis débute dans les pages de Loki, Agent of Asgard, une série sur laquelle je n'ai pas fini le premier arc, je dois l'avouer, un petit peu de retard. J'ai réussi à prendre le train en marche néanmoins. Je n'ai pas fini non plus Original Sin Thor et Loki par manque de temps. Il me manque deux épisodes à lire. Bon, j'ai réussi à comprendre quand même. La série est toujours écrite par Al Ewing avec Jorge Coelho au dessin et Lee Loveridge à la couleur, évidemment. Doom est dans le futur. Ça commence sur Doom. D'ailleurs, Doom est sur la cover et c'est pas pour rien. Doom tient enchaîné Loki sur la couverture. Eh bien, peut-être c'est ce qui arrivera dans l'épisode. Est-ce que c'est une couverture mensongère? Réponse dans ce comic. Donc, Doom est dans le futur. Il découvre un futur complètement dévasté, une terre en poussière, avec un Loki plus ou moins triomphant qui se fout de sa gueule. Il revient dans le temps présent et bah, comprend que ce qu'il doit faire pour empêcher ce futur d'arriver, c'est tout simplement empêcher Loki d'agir. Et il va donc se livrer à un duel magique avec Loki.
Il faut se méfier de Loki d'or.
Oh putain!
Eh
Oh putain, je l'ai pas vu venir!
bien d'ailleurs.
Oh là là! Oh là là! Alors, on a quelques éléments en début d'histoire hein, avec Loki et sa nouvelle copine. Je dis bien copine et non pas petite amie, dont je vais retrouver le prénom Verity Willis, hein, celle qui est un espèce de détecteur de mensonges humains, avec qui il peut justement entretenir une relation totalement sans mensonge, ce qu'il essaye de faire depuis longtemps. Et on a aussi une autre sous-histoire en parallèle que je n'ai pas encore très bien saisie. Des gens qui retapent le château et notamment la ville de une des villes en Latverie après une bataille contre Susan Richards, une bataille qui s'est passée dans le Fantastic Four Annual numéro 1 que je n'ai pas lu, qui disent qu'il est en vente déjà, alors je l'ai peut-être raté, je ne l'ai pas encore lu en tout cas. Mais ouais, en tout cas ils disent en vente dès maintenant, mais bon voilà, j'ai pas eu le temps de faire de recherche. Ouais, ils se sont foutus un peu de la gueule du monde. Et ça s'est peut-être été décalé hein, à la dernière minute pour arranger les plannings, et du coup, ça devait sortir cette semaine-là, ça n'a pas été le cas. Bon, en tout cas, ce sera la semaine prochaine. On sait déjà qu'il y aura une grosse baston avec Son Richards.
Ça sort le 1er octobre.
Donc la semaine prochaine. Et que la Latverie a quand même sacrément mangé. Et donc, ces réparateurs, enfin, ces employés qui sont là pour réparer un petit peu la ville.
Damage control.
Réparer une sorte de damage control latvérien, quoi. C'est des latvériens qui travaillent pour les latvériens. Et on en voit deux principalement qui commencent à s'engueuler à propos de tout. À propos de religion, on sent qu'il y en a un qui pète les plombs totalement, est-il sous contrôle mental. Il y a une espèce de mise en parallèle qui est faite entre son pétage de plomb et le duel magique entre Doom et Loki. Est-ce que l'un a à voir avec l'autre? On ne sait pas. En tout cas, le mec pète totalement les plombs et part en vrille sur tout, quoi. Sur la religion, la politique, sur tout. C'est limite, enfin, c'est pas que c'est inintéressant, c'est qu'on se demande un peu ce que ça va faire là, donc il y aura sûrement d'autres réponses dans le prochain épisode, mais ça va presque plomber le récit parce qu'on n'a pas toutes les clés et c'est un petit peu dommage. Bon, cependant, je pense qu'il y aura une suite, évidemment, à ce moment-là. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour rien. Je pense pas qu'Ali Wing ait pris autant de pages dans le numéro pour dire du rien et ne plus en parler jamais. Ça m'étonnerait, ça serait vraiment très con de la part de n'importe quel scénariste de faire ça. Donc, ça reviendra. Maintenant, j'ai pas compris. Alors, c'est peut-être moi qui ai raté, qui l'ai lu un peu vite, parce que je l'ai lu vraiment juste avant cette émission, cet épisode-là. Mais bon, voilà, un bon épisode néanmoins, j'ai trouvé sympathique, le duel entre Loki et Doom est très intéressant, un peu verbeux hein, néanmoins, un peu lourd parce que le Doom ne fait que raconter sa life et parle de temps, d'espace et de narration, et bon, c'est à lire hein, pour comprendre. Ça va être un check-in de plus, voilà, ce sera seulement un check-in de plus, ce n'est pas un bail.
Le rapport avec Axis?
Ben justement, je ne le vois pas. Alors, peut-être l'ai-je raté, comme je dis, parce que je l'ai lu assez rapidement. Ou peut-être que ce sera expliqué, puisque le prochain numéro est la suite de l'arc, et bien sûr, sera toujours Marche to Axis. Donc, on aura peut-être des éléments continuants. C'est peut-être tout l'ensemble de l'arc qui est Marche to Axis. Bon, arc essentiel, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, pas assez de réponses dans cet épisode. Cependant, la situation qui est à la fin de cet épisode est intéressante, même si on sait qu'elle ne durera pas, évidemment. Voilà, donc entre Check It et Check It Plus, et on va terminer Marvel avec toi, Bruno, qui va nous parler de Inhuman numéro 6.
Et oui, et ça enchaîne les numéros Inhuman maintenant. Donc c'est Charles Soule au scénario, Ryan Stegman au dessin. C'est très sympa. On avait à la fin du numéro 5, on avait le fameux Unspoken qui avait réussi à la mettre à l'envers à cette pauvre Médusa et qui du coup avait récupéré tous ses pouvoirs. Et du coup avait capturé Médusa, avait pris le contrôle de Attilan. Et du coup tous les jeunes nouveaux inhumains qui étaient apparus et qui étaient en dehors de Attilan se retrouvent avec l'accès bloqué à la ville, dont le héros depuis quelques numéros, à savoir ce fameux Inferno. Alors sa sœur en plus se retrouve bloquée dans Attilan, donc il va se mettre en quête d'une façon de rentrer dans la ville par effraction. Pour cela, il va être associé à deux autres inhumains qui ont été présentés dans le précédent numéro. Donc un petit team-up de trois jeunes héros. C'est bien rythmé, il y a pas mal d'action. Après, il y a un autre inhumain gentil qui vient leur porter un petit peu d'aide. Et du coup, c'est quand même assez cool. Il y a deux, trois scènes vraiment sympas. En plus, les dessins de Ryan Stegman, ça aide beaucoup puisque c'est quand même très dynamique, ces scènes d'action.
Et rapide,
oui, ça c'est sûr, ça change de Madureira.
Petit trash gratuit.
Et en plus, c'est un arc qui s'étale pas, c'est pas du Bendis, quoi. C'est vraiment, on a un début, une fin, à la fin du numéro, on a vraiment un changement de statut. Et c'est très intéressant. Et alors, ça se conclut avec une scène qui nous montre un personnage aussi qui tient quelqu'un en laisse avec des chaînes, un petit peu comme sur la couverture de Loki. Et ça annonce du très lourd et du très intéressant, peut-être même à relier avec Time's Run Out. Donc voilà, bah, cette série Inhuman, maintenant elle a décollé, et moi c'est une de mes lectures préférées chez Marvel. Donc tant mieux, tant mieux. J'espère que ça va continuer de marcher même au niveau des ventes. Et donc gros gros bail, que ce soit au niveau de la qualité des dessins ou même des dialogues. Merci Charles Soule. Donc voilà, Inhuman, très bonne série.
On termine Marvel avec nos TP. Deux TP seulement chez Marvel cette semaine ont retenu notre attention. Amazing Spider-Man Epic Collection TP qui s'appelle yes. Great Power, qui est le numéro 1 de cette Epic Collection, puisqu'il va contenir les Amazing Spider-Man 1 à 17, l'annual numéro 1, ainsi que du matériel d'Amazing Fantasy 15, bien sûr, le chapitre présentant les origines de Spider-Man, évidemment. C'est au prix de $35. Si jamais vous ne les aviez pas encore, c'est vraiment le moment. $35 pour une belle collection,
ah
en
oui,
couleur, etc.
C'est vraiment pas cher, hein, puisqu'il y a beaucoup de pages, beaucoup de numéros. C'est plus gros que l'intégrale, quoi.
Ouais, il y en a un petit peu moins que dans le Essential Amazing Spider-Man, puisqu'il y avait les 20 premiers épisodes dans l'Essential, mais
là,
qui étaient en noir et blanc.
Là, c'est en couleur.
Voilà, c'était en noir et blanc, c'était moins cher, mais c'était en noir et blanc. Là, c'est au prix de $35 en couleur, vous avez 3 épisodes de moins. Cependant, c'est une très belle collection. Je rappelle évidemment que c'est du Stan Lee, du Steve Ditko. Aurais-je besoin de le rappeler vraiment pour ceux qui ne le sauraient pas. Et toujours dans les gros volumes, $24, mais c'est du TP cette fois-ci, Marvel Masterworks, Mighty Thor volume 5, avec les épisodes 131 à 140, ainsi que l'annual 2 de Thor. Ça date de 1967-68, par là, c'est du Stan Lee, Jack Kirby.
Encore lui.
Évidemment, $25 pour Thor à la grande époque, quoi. Enfin à la grande époque, en tout cas à l'époque qui lui a donné ses lettres de noblesse que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, le mois de septembre c'est donc terminé.
Et oui.
Future Sense est terminé.
C'est vrai. On en a pas tant chroniqué que ça, hein, des numéros Future Sense.
Parce que, moi, j'en ai pas autant lu que ça parce que ça m'intéressait pas des masses.
Mais, voilà. Le bilan, moi, c'est déjà, j'ai trouvé que les couvertures 3D, elles étaient cool. Donc ça, c'est un peu mon côté fanboy des couvertures. Mais, après, j'en ai lu quelques-unes, quelques histoires qui étaient assez sympas quand on suit la série hebdo. D'autres, vraiment moyennes. Donc c'est assez mitigé quand même pour moi. Mais j'en ai pas lu suffisamment, je pense, pour avoir un avis complet sur la question.
Ma grosse déception de ce mois de septembre sera le manque d'Alex Plusada. Il n'y a pas eu de numéro au mois de septembre. Le dernier numéro s'est sorti le 6 août, le numéro 8, le prochain sortira la semaine prochaine.
Ah là là.
Je suis franchement déçu.
Ah, Steve, le romantique.
Non, mais ça me fait chier, j'adore cette série et franchement, elle m'a manqué ce mois-ci. Elle m'a vraiment manqué ce mois-ci, je l'attendais. Bon. Un petit mois sans, espérons que le prochain numéro, en tout cas le cliffhanger qu'on avait à la fin du 8 était tellement intéressant. J'ai hâte de découvrir la série la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour notre émission. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour d'autres reviews de comics au début du mois d'octobre, avec beaucoup de nouvelles sorties, évidemment. Entre-temps, vous retrouverez le Weekly News mercredi soir à 21h sur Synops Live et en replay dès le lendemain sur le site. Et il va y avoir encore de l'actu, hein, comme d'habitude.
Ouais, bah oui, il y a New York Comic Con qui arrive bientôt. Donc...
Bref, comme d'habitude, vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter, @ComicCity. Et puis, vous pouvez réécouter tous les anciens épisodes sur le site ou sur iTunes. Et nous envoyer des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr, mails qui seront lus dans l'émission Weekly News et auxquels nous répondrons s'il y a des questions. Mais c'est tout, hein, je crois
qu'on
a
fait
le tour.
C'est pas mal, on a été plutôt complet à deux, on s'est bien débrouillé quand même.
Et on a fait une émission d'une heure 20, waouh.
Ouais, quand même, environ 13 reviews, donc c'est cool.
Bon, on va le dire, hein, c'est Bunny qui nous retarde. Hein.
Ouais, y avait moins de blagues. Hein.
Ouais, enfin, quand on y en avait, elles étaient bien pourries. Donc,
ouais, c'est vrai, donc là on a rattrapé quand même.
Allez, à la semaine prochaine, et comme d'habitude, portez-vous bien.
Allez, ciao, ciao. And you hate